France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse. Et ce matin, on s'intéresse au plaisir de regarder les films de Wes Anderson à l'occasion d'une exposition à la Cinémathèque française en partenariat avec France Inter. La famille Tenenbaum, The Grand Budapest Hotel, Fantastic Mr. Fox, La vie aquatique. Comme le rappelle justement Le Monde, il suffit de quelques images pour reconnaître son style cinématographique unique. Coup de projecteur sur ce cinéma symétrique et chromatique, mais pas que, en compagnie de Julie Assouli, de Christophe Narbonne et de Mathieu Orléans. Et vous, qu'aimez-vous dans le cinéma de Wes Anderson? 01 45 24 7000, sans oublier l'appli Radio France, où vous pouvez laisser messages et notes vocales. Bonjour Christine Lapelle-Edouel.
Bonjour Ali.
Journaliste indépendante et autrice de ces livres qui nous font du bien, quel est votre plaisir littéraire?
Eh bien, c'est un western polar, ou je dirais plutôt un western polar halieutique. Je vous expliquerai pourquoi.
Bonjour Héloïse Brion.
Bonjour Ali.
Alias Miss Maggie's Kitchen. Quel est le plat à partager ce week-end?
Une délicieuse tarte aux oignons.
Oh là là, ça promet, vous apportez des parts avec une salade, ça a l'air absolument délicieux. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Professeur de philosophie dans la vraie vie, quel est le menu de votre chronique philo?
Eh bien, puisqu'il y a un pape qui a été élu hier, on va se poser la question de savoir si cette élection, elle n'intéresse que les croyants ou est-ce qu'elle peut aussi intéresser tout le monde.
Bonjour Guy Metodicino.
Bonjour Ali.
Chef de rubrique cinéma à Télérama, qui deviendra notre ami cette semaine?
Écoutez, je vais vous donner un petit indice. Je vous assure, je ne vais pas vous en flûter.
Bonjour Sandra Colombo.
Bonjour Ali.
Comédienne et humoriste qui va bientôt monter les marches de Cannes.
Tout à fait.
Quel est le menu de votre chronique Mauvaise Langue?
Eh bien justement, je vais parler des marches de Cannes, et parce que Wes et moi, nous allons les monter, ainsi que Guillemette. Mais moi, j'ai un vrai problème pour m'habiller. Peut-être que y aller nu.
À tout à l'heure. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
Grand Bien vous fasse.
Ainsi ma vie commença. Apprenti lobby-boy débutant au Grand Budapest Hotel sous le sévère commandement de Monsieur Gustave H. Je devins son élève et il allait devenir mon conseiller et mon protecteur.
Qu'est-ce qu'un lobby-boy ? Un lobby-boy est complètement invisible et cependant toujours en vue. Un lobby-boy se souvient de ce que les gens détestent. Un lobby-boy anticipe les désirs des clients avant que les désirs soient désirés. Un lobby-boy est par-dessus tout discret à l'excès. Nos clients savent que leurs plus grands secrets, dont certains sont franchement inconvenants, finiront avec nous dans la tombe. Apprends à la fermer, Zéro.
Oui, monsieur.
C'est tout pour l'instant.
Extrait de The Grand Budapest Hotel en 2014. Bonjour Julie Assouli, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences en civilisation des États-Unis à l'Université d'Artois et vous publiez au CNRS Éditions Wes Anderson, cinéaste transatlantique. Bonjour Christophe Narbonne, bienvenue.
Bonjour à tous.
Vous êtes journaliste et critique ciné et vous publiez chez EPA un très beau livre, Wes Anderson, la totale, les 11 films et 7 courts-métrages expliqués. Bonjour Mathieu Orléans.
Bonjour.
Vous êtes le co-commissaire de l'exposition consacrée à Wes Anderson à la Cinémathèque française jusqu'au 27 juillet prochain. Alors en quelques mots, qui est Wes Anderson pour celles et ceux qui n'en auraient jamais entendu parler, à ne pas confondre avec l'autre grand Anderson du cinéma américain, Paul Thomas Anderson, le réalisateur de Boogie Nights ou Magnolia. Julia Sully, Wesley Anderson, Wes Anderson, né à Houston au Texas en 1969.
Oui, c'est un réalisateur autodidacte, Wes Anderson, qui a commencé sa carrière, enfin qui a fait des études de philosophie et a commencé à manier la caméra en étant très jeune. C'était la caméra de son père, une caméra Super 8, et qui s'est formé un peu tout seul en regardant des films. Il est très cinéphile. Il a grandi donc au Texas, et puis après avoir rencontré un premier succès avec Bottle Rocket, hein, c'est son premier film qui se déroule au Texas, il va partir vivre à New York et continuer sa carrière et être de moins en moins attaché à ce territoire texan qui finalement ressort très peu dans sa filmographie.
Et oui,
Pour moi, c'est plus un réalisateur européen.
Au Texas, il fait chaud. Je suis allé à l'école à Austin, mais j'ai grandi à Houston, sur le golfe du Mexique. C'est chaud, aussi chaud que l'Inde, et humide, et plein de moustiques. Et c'est vrai que, à part Rushmore ou La famille Tenenbaum, il y a peu de traces de son Texas natal dans ses autres films, hein, qu'il s'agisse de The Grand Budapest Hotel ou Fantastic Mr. Fox.
Oui, c'est vraiment Bottle Rocket qui est ancré dans l'imaginaire texan tel qu'on se le représente, c'est-à-dire la frontière avec le Mexique. Ces autres films sont beaucoup plus centrés soit sur la ville, soit sur une nature, mais qui est plutôt une nature du nord des États-Unis.
Et dans ces films, on détecte fortement l'influence européenne, notamment celle des nouvelles vagues françaises et italiennes qui irriguent tous ces films.
Oui, alors il le dit lui-même, hein, c'est un grand amateur de cinéma français et il n'est pas simplement amateur de cinéma français, il est aussi commentateur de ces films-là. C'est un réalisateur qui analyse beaucoup le cinéma qu'il regarde, donc il va avoir un regard critique sur ce qu'il regarde. Par exemple, il a écrit des chroniques pour des journaux britanniques sur l'argent de poche ou sur le souffle au cœur de Mal. Ce sont des films qu'il a adorés et qu'il va réellement décortiquer et analyser comme un étudiant en cinéma, au final. Mathieu. Et donc, il va avoir cette connaissance des œuvres très profondes qui vont s'imprégner dans son cinéma.
Mathieu Orléans, comment définiriez-vous le style de Wes Anderson ?
Je dirais qu'il a inventé un genre un peu particulier qui est à mi-chemin entre la comédie et la mélancolie. C'est déjà quelque chose d'assez exceptionnel pour le citer en termes de tonalité. C'est des films qui font rire, c'est des films où il y a une dimension burlesque. Par exemple, va incarner quelqu'un comme Owen Wilson, avec qui il a commencé à faire des films parce qu'il est lui-même texan et qu'ils se sont rencontrés à l'université très jeune. Ce côté un petit peu clownesque qu'on a parfois dans certains de ses films. Je pense au Darjeeling Limited, à certaines scènes avec le bandeau, les lunettes cassées dans le train indien. Et puis, il y a l'autre côté, une dimension qu'on oublie parfois, qui est la mélancolie, la tristesse, le deuil. C'est à la fois ce que portent les personnages, ce que porte l'histoire. Il est assez soucieux, finalement, Wes Anderson, même s'il recrée des univers qui ont l'air complètement fantasmatiques, coupés du monde. Il est quand même toujours inspiré de ce qui a pu se passer en Europe, aux États-Unis, en Inde et ailleurs. Et il est soucieux des moments comme ça de bascule. La Seconde Guerre mondiale, par exemple, dans Le Grand Budapest Hotel, va créer une tonalité un peu mélancolique, un peu triste. Les destins des personnages ne sont pas toujours aussi heureux qu'on peut le croire, malgré la façade un peu multicolore. Et voilà, c'est quelque chose qu'on oublie parfois. Oui.
Christophe Narbonne, Wes Anderson a défini un univers visuel unique, hein, reconnaissable entre tous, qui puise notamment son inspiration dans le passé et les méthodes de travail à l'ancienne.
Oui, il est très inspiré par le vintage. Je pense que c'est uniquement son goût, hein. Il aime ça, on voit comment il s'habille, tel un dandy avec ses vestes en velours, etc. Donc il y a une fascination comme ça pour tout ce qui relève du vintage et par conséquent aussi sur la façon dont les films étaient faits avant. Donc il y a effectivement le recours au stop motion dans ces films d'animation ou même dans ces films live. Par moments, le recours à la miniature, toutes des méthodes qui sont aujourd'hui désuètes pour l'essentiel des cinéastes et auxquelles lui recourt et qui donne à son cinéma cette facture, comme je l'ai dit, très vintage et très particulière, très singulière. On entre chez lui, effectivement, comme à la maison, avec ses chaussons et comme le Roald Dahl dans La merveilleuse histoire de Henry Sugar, derrière notre bureau, tranquillement, on s'assoit devant un film de Wes Anderson, comme on rentre dans ses pantoufles.
Et c'est ce qu'on voit dans votre exposition, Mathieu Orléans, à la Cinémathèque française.
Alors, il y a l'exposition, effectivement, qui est le moment, je crois, unique pour voir tout ce qui a été créé pour les films. Ça va souvent très vite, les films de Wes Anderson, on l'a pas dit, mais c'est un rythme effréné. Et on a du mal, quand on voit l'exposition, à se dire comment est-ce qu'il a mis autant d'énergie à faire, construire, élaborer des objets qui parfois restent moins qu'une seconde ou cinq secondes à l'écran et qui ont demandé 3 mois de travail, 4 mois de travail, que ça soit un menu du restaurant du Grand Budapest. Bon, je parle pas des costumes, ça c'est évident, une peinture accrochée sur un mur, un détail, hein, ça peut être un verre, un vase, un journal. Comme tous les univers sont fantasmatiques, il faut créer la monnaie, il faut créer les journaux, il faut créer les enseignes, il faut tout créer. Et tout demande beaucoup de temps, tout est extrêmement... C'est de la haute couture, quoi. Tout est fait avec énormément de goût et de précision. Et donc l'exposition, c'est comme un arrêt sur image sur toutes ces choses qui vont très vite dans le film. Et là, tout d'un coup, on prend le temps dans l'expo de les voir au mur sous vitrine et de pouvoir contempler, de pouvoir aussi, c'est important, se rendre compte qu'il y a derrière lui toute une équipe. Il est très fidèle, c'est vraiment comme une troupe de théâtre qui le suit de film en film. C'est par exemple le même chef-op Robert Yeoman depuis le début, et tous ses collaborateurs voilà, sont dans une forme d'osmose avec lui, de familiarité, et créent ces objets qui, comme je le dis, voilà, c'est la première fois que le public mondial, pas simplement français, peut les voir quelque part, c'est à la Cinémathèque en ce moment.
Tiens, quel est le cliché qui vous agace le plus quand on vous parle du cinéma de Wes Anderson, Julie Assouli, un cinéma qu'on réduit un peu trop souvent à ses jolies formes, hein.
Oui, alors moi, ce qui m'énerve le plus, je pense, c'est qu'il fait toujours le même film. Bon, quand on se rend compte, justement, comme le disait votre invité juste avant, quand on se rend compte de la difficulté et de du temps passé à faire ces films qui sont extrêmement sophistiqués, entendre que c'est toujours le même film est assez agaçant, surtout que c'est un réalisateur qui met un point d'honneur à créer un univers. Et il fait exprès, en fait, de créer cette esthétique et cet univers narratif en essayant de penser, en fait, ces films comme une continuité. Et donc, ce qui donne l'impression que ces films se répètent toujours, c'est cette forte identité esthétique et narrative qui font qu'un personnage pourrait marcher d'un film à l'autre. Sans que ça paraisse étranger. C'est comme ça qu'il décrit son univers flic. Et donc, les gens réduisent, enfin, le spectateur qui n'est pas très sensible à cette esthétique va réduire ce travail impressionnant et ce travail de longue haleine à il fait toujours le même film. Donc, moi, c'est cette expression-là qui m'énerve.
Christophe Narbonne.
Oui, en fait, moi, ce qui me fait, je rejoins tout à fait ce que vient de dire Julie. Pour moi, Wes Anderson, c'est un grand esthète. Il s'inscrit dans la lignée des grands esthètes, j'allais dire hollywoodiens. Je pense à Douglas Sirk pour la couleur, etc. Pareil, c'était des cinéastes dont on disait qu'ils faisaient un peu toujours le même film, ou même pour aller dans des genres différents. Quelqu'un comme Dario Argento, etc., qui sont des cinéastes très identifiés visuellement. On a l'habitude, par paresse intellectuelle, de dire qu'ils font toujours les mêmes films. Or, pour moi, il s'agit plutôt de petites variations sur les mêmes thèmes, que ce soit les thèmes du film ou les thèmes graphiques. Et voilà, pour moi, c'est ça, Wes Anderson. Et effectivement, il y a un peu de paresse à dire qu'il fait toujours le même film, parce qu'on pourrait dire ça de moult cinéastes esthètes, on va dire, pour simplifier.
Mathieu Orléans.
Il y a peut-être plusieurs choses. C'est vrai qu'il y aurait, pour rebondir sur ce que j'ai déjà dit, le côté plus sombre, plus noir de son cinéma, qui est parfois un peu omis au profit de quelque chose de purement jouissif, et du coup qui va du côté, même si ça s'adresse vraiment aux enfants, je crois, mais derrière les films pour enfants, il y a quelque chose de plus complexe. Alors je dirais pas que ça m'agace, mais en tout cas c'est intéressant de se rendre compte que le public il est plus vaste que ça, et que des films de stop motion par exemple, qu'on a tendance un peu à réduire à des films pour les enfants les aiment et c'est très bien, mais il y a une dimension dystopique, fin du monde, surtout dans L'île aux chiens, où ces chiens sont déportés avec toute l'humanité qu'ils ont en eux, cette tristesse dans une île, déchets dans lesquels ils sont très mal considérés. Et tout ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui ne s'adresse pas uniquement aux enfants. Mr. Fox, on a un personnage qui assume d'aimer voler, chaparder, c'est le personnage évidemment du renard, qui a une forme d'amoralité, qui n'est pas du tout un personnage bien sous tout rapport. C'est ça qui est bien chez Wes Anderson, c'est qu'ils sont très tendres et en même temps un peu voyous, quoi, les personnages.
Allez, il est 10h19, l'heure de retrouver le plaisir littéraire de Christy Lapelle-Edouel. Alors Christina, votre plaisir littéraire, c'est La rivière au cœur froid de Keith McCafferty chez Gallmeister, dans une traduction de Marc Boulay.
Parfait, c'est ça. Et alors il s'agit, McCafferty, c'est un auteur qui a un succès fou aux États-Unis. Et surtout, il a une particularité, c'est qu'il est spécialiste de l'énigme en milieu de fans de pêche en rivière. C'est quand même très, très, très pointu. Alors autant les premiers livres penchaient un petit peu vers du côté du manuel pour bien choisir ses mouches, autant là, il s'est un peu calmé. Et c'est tant mieux pour les lecteurs qui ne sont pas forcément fans de rester trempés dans l'eau glacée pendant des heures. Alors, il y a deux shérifs, une shérif et son adjoint, Martha Ettinger et Sean Stranahan, qui seront avertis de la découverte d'une jeune femme, du corps d'une jeune femme, dans une grotte qui est le refuge d'un ours. Elle a été déchiquetée, la pauvre. Mais avec elle, à proximité, on retrouve une pochette ancienne en cuir frappée des initiales E-H. Et cette pochette contient une collection de mouches tout à fait d'appât, absolument luxueux. Alors, l'enquête commence et c'est plutôt compliqué dans cette région sauvage du Montana. Si, et alors, la question, c'est qu'on se demande, au fur et à mesure que ça avance, si cette pochette ne serait pas qu'une partie de l'équipement de pêche perdu d'Ernest Hemingway. Voilà, ça commence. Alors, on n'est plus seulement chez les pêcheurs de rivière, mais aussi dans la littérature. Et donc, Hemingway venait souvent dans la région. Mais il se murmure même que l'on pourrait aussi retrouver un manuscrit inédit de Papa, puisque c'est comme ça qu'on l'appelait. Donc, la pêche pourrait devenir miraculeuse. Je ne vous dis pas comment ça va se terminer, mais il y a beaucoup d'épisodes. Et en tout cas, ce qui est génial avec ce livre, c'est que même si on n'aime pas la pêche...
Comme Sandra Colombo. Hein.
Voilà. Même si on n'aime pas la pêche, comme moi. D'ailleurs, je ne suis pas sûre que vous soyez fan de pêche
si,
en rivière.
Je pêchais quand j'étais...
Dans le loin.
Quand j'étais ado, j'aimais bien pêcher.
Ah ouais, ouais. Eh ben alors, c'est pour vous, ce livre. C'est pour vous. Voilà. Et ce qui est formidable, c'est l'écriture, évidemment. C'est un roman d'une belle écriture et d'une structure très pensée, parce qu'il fait partie de ces romanciers qui présentent un personnage ou un détail, et qui le tiennent absolument jusqu'au bout. On le retrouve à la fin. Je ne vous en dis pas plus, mais en tout cas, c'est le livre parfait pour passer un bon week-end sportif sans se fatiguer.
Je vois l'air dubitatif de Thibaut Temeris. Eh ben, je salue mes camarades de lycée, Pierre-Yves Sarrazy et Pierre Guilbeault, avec qui je... Jean-Yves Sarrazy et Pierre Guilbeault avec qui je pêchais. On pêchait à la mouche.
Non, c'était pécho.
C'est pas mal. Et donc, le livre de Priscilla Pelledwell, c'est La rivière au cœur froid de Keith McCafferty chez Gallmeister, dans une traduction de Marc Boulet. Elle est rusée comme une renarde et comme son amie du vendredi, Guillemette Odissino.
France Inter.
Chouette, tu es Harry Potter.
Grand bien vous fasse.
Je suis Hermione Granger et...
Évite de choisir tes amis parmi les gens douteux. Je peux te conseiller.
Alors Ali, je vais essayer de faire cette chronique à 100 à l'heure, comme la plupart des personnages de Wes Anderson qui courent tout le temps. Alors cher Ali, je crois que je vous ai déjà raconté une fois dans une émission sur les films de Disney que lorsqu'ils étaient petits, mes enfants croyaient, à cause du dessin animé, que Robin des Bois était un renard. Alors vous me voyez venir, après avoir beaucoup hésité, j'avoue, avec Stefan Zweig, le merveilleux écrivain dont l'œuvre a inspiré mon film préféré de Wes, The Grand Budapest Hotel, j'ai fini par choisir un ami quand même moins désenchanté, qui est le héros de mon deuxième film préféré de Wes, Mr. Fox. D'abord parce que ce renard chef de famille est le héros de la première incursion du réalisateur dans le cinéma d'animation. Donc, dans Fantastic Mr. Fox adapté de Roald Dahl, et que franchement, c'est un régal, mais alors aussi loin que possible de Disney et Pixar, avec son animation image par image de marionnettes fabriquées et animées à la main, dans des décors et des travelines latéraux qui respirent le Wes à plein nez. Alors il a tellement la classe, Mr. Fox, avec son costume en velours moutarde, ses deux brins de blé en guise de pochette, et ses yeux verts, en train de se trémousser sur des tubes des Beach Boys. Dès le début, il a le sens de la formule. « On prend le joli chemin ou le raccourci ?» demande-t-il à sa magnifique épouse Felicity. Bon, lui, il propose le raccourci. Elle préfère le joli chemin. « Tu as raison, » répond-il. « De toute manière, il est plus rapide. » Pour mon ami Renard, comme pour Wes Anderson, on va toujours plus vite en choisissant la beauté. Et comme Felicity lui annonce qu'elle est enceinte, celui qui était le meilleur des voleurs de poules accepte de se ranger, de changer de métier. Il devient chroniqueur. Voilà, c'est à vous la relance maintenant. Allez, vite,
oui, non, mais j'étais en train de... Laissez-moi rire à votre chronique. Donc c'est pour ça que vous l'aimez.
Eh oui. Mais en fait, Ali, en tant que chroniqueur, mon ami Renard, bah, il s'emmerde. Rien de personnel, hein, pas moi. Il ne peut pas résister à mettre au point des plans de bandits pour dévaliser les trois gros fermiers voisins de vilains, très vilains capitalistes armés jusqu'aux dents. Il est tout fier d'enfluter ses fils de flûte. Il se sent à nouveau pousser des ailes, cet autre Robin des Bois à fourrure rousse. Et puis évidemment, ben, ça tourne mal. Alors beaucoup de mecs auraient du mal à se remettre en question. Mais pas mon Fox chéri. Il répète, je n'aurais pas dû. Il s'excuse auprès de Felicity et aussi auprès de son fils, qui a le droit de ne pas ressembler à son père. Et si tout de même il ne lâche pas l'affaire, c'est parce qu'il a la classe sociale. Il est un animal sauvage, bon sang de bois, il ne va pas tout de même se laisser affamer ou digérer par le système. Alors vers la fin de ce film écolo, humaniste, et qui parle de la famille, de la transmission et de la justice mieux que beaucoup de films en images réelles, mon amour de renard arrête deux secondes sa course effrénée. Sur un sidecar où sont empilés tous les gens qu'il aime, Il lève le poing en direction d'un loup qui, au loin, en réponse, lève le poing à son tour. Et ce geste, silencieux et solidaire, bah waouh, ça vous fait dresser les poils.
Alors, Julie Assouli, Christophe Narbonne, Fantastic Mr. Fox compte parmi vos films préférés de Wes Anderson. Hein. Christophe Narbonne.
Oui.
Julie Assouli.
Pardon. Ah, excusez-moi.
Julie Assouli.
Oui, c'est pas très original, mais effectivement, c'est un de ses films les plus réussis, à mon sens, et il a passé énormément de temps à le réaliser. Et alors moi, alors pour rebondir sur ce que disait Guillemette Odissino, le poing en l'air, levé en l'air, c'est peut être interprété comme un hommage aux Black Powers, c'est-à-dire aux Black Panthers, c'est-à-dire que ce loup, c'est le seul personnage encore sauvage qui n'a pas été impacté par l'industrialisation galopante qui est montrée dans ce récit. Et donc il y a des petits clins d'œil comme ça aussi à l'histoire américaine à travers ces films les moins américains. Celui-ci, c'est vraiment un film adapté d'un roman britannique. Il est très fan de Roald Dahl. Il l'a adapté plusieurs fois. Et alors, l'autre chose très, très, très appréciable dans ce film, c'est la minutie avec laquelle il a réalisé son film. Il est très inspiré par Ladislas Starevitch, qui était un dieu du stop-motion, un immigré russe qui travaillait en France et qui a fait le roman de Renard en stop motion, donc dans les années 30. Et alors, il raconte qu'il est allé tellement dans les détails qu'il va reproduire le mouvement des poils de ses marionnettes pour évoquer le plaisir, évoquer l'émotion dans ses personnages animés.
Christophe Narbonne.
C'est très, très beau.
Oui, on parlait tout à l'heure du non-renouvellement présumé de Wes, mais quand il a fait le Fantastic Mr. Fox, donc qui est de mémoire son quatrième ou cinquième film, je sais plus, je crois, personne s'y attendait, tout le monde se disait mais il est fou, pourquoi il fait un film d'animation qui a longtemps et qui est toujours un peu considéré comme un sous-genre pour la plupart des gens. Et lui s'est emparé de ça avec Gourmandise. Il a choisi le stop motion parce que, comme le disait Julie, il était fan de cette forme d'animation, donc image par image, et avec des petits personnages en pâte à modeler, en plasticine, on va dire, pour simplifier. Et donc il a surpris tout son monde, et surtout il a tiré à lui le film d'animation, quoi. C'est-à-dire que Fantastic Mr. Fox ne dépareille pas par rapport au reste de sa production. C'est un film de Wes Anderson, mais c'est un film d'animation. Et je trouve que là, il avait pris une sorte de risque, et il se trouve que c'est un de ses films qui a à peu près le mieux marché à l'arrivée.
Mathieu Orléans.
Dans ce qui est intéressant, ce qui a été dit tout à l'heure sur le rapport au Black Panther, c'est vrai que c'est un film, et c'est souvent le cas chez Wes Anderson, très hybride au niveau culturel. Il vient piocher des choses de différentes cultures, donc c'est effectivement un film très anglais, tourné d'ailleurs dans un studio anglais, adapté d'un roman de Roald Dahl, mais avec par exemple des acteurs américains qui font le doublage, c'est George Clooney et Meryl Streep, c'est pas des acteurs anglais, il avait pensé à des acteurs anglais, mais la manière dont il s'exprime lui est plus américaine, donc déjà il y a quelque chose d'un peu troublant. Et puis la musique, par exemple, c'est Alexandre Desplat, donc français avec qui il travaille depuis cette époque-là. Je dis pas que la musique est française, ça n'a pas de sens, mais la musique est faite par un Français, elle a quelque chose de très symphonique, en même temps de très dissonante, et tout ça, on le retrouve dans l'expo grâce à la monstration de plein de petites puppets, donc de marionnettes originales, et on voit tout le travail qui a été fait derrière, de mécanisation des têtes, de mettre la fourrure en mohair, poil par poil sur les petites marionnettes, et c'est vrai que c'est délicieux de les revoir, on les voit de différentes tailles d'ailleurs, les grandes, les petites, parce qu'en fonction du décor, il faut s'adapter, et c'est vrai que c'est, je pense, merveilleux de pouvoir, dans l'expo, comprendre comment ça marche et de pouvoir les voir en vrai.
Guillemette.
Oui, bah, cette histoire en fait de... En fait, on l'a pas dit, mais Wes Anderson, il est quand même obsédé. On a parlé de vintage, de passé, mais donc c'est vraiment un grand nostalgique. Il est obsédé par l'enfance, mais ce qui est magnifique, c'est qu'en fait, il se comporte comme un enfant avec des petites marionnettes, avec des petites boîtes dans lesquelles il crée des petits décors et tout. Tout ça pour parler en fait de sujets d'adultes. Et c'est cette espèce constamment d'aller-retour entre la candeur de l'enfance, le rose bonbon des décors, et tout d'un coup des sujets qui sont beaucoup plus violents ou adultes que ça, qui est toujours fascinant. Et franchement, moi je conseille de regarder Mr. Fox d'abord, et juste après The Grand Budapest Hotel, pour voir à quel point la mise en scène, en fait, si vous regardez, pourtant ce sont deux formes différentes, est strictement identique. Il court, les personnages des deux films exactement de la même manière, en travelling latéraux. Vous allez voir, c'est frappant. Il y a même des moments où on se demande si les héros de Grand Budapest Hotel ne sont pas des héros d'animation.
Allez, dans un instant, une sélection de films de Wes Anderson par nos invités. On se retrouve juste après avoir écouté Les Kinks, This Time's Tomorrow, une chanson de 1970, 10h31 sur Inter. This Time's Tomorrow, que l'on entend dans le film de Wes Anderson à bord du Darjeeling Limited.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Et ce matin, dans Grand bien vous fasse week-end, nous célébrons le plaisir de regarder des films de Wes Anderson. Alors, Julie Assouli, je rappelle que vous êtes universitaire et autrice d'un essai sur Wes Anderson. Ce qui frappe dans son cinéma, c'est que tous ses films, et je vous cite, mettent en scène des adultes incapables, ou du moins refusant de se comporter comme tels. Wes Anderson réalise des films d'apprentissage sans limite d'âge, c'est ça ?
Oui, alors on les appelle des adolescents, donc c'est un terme porte-manteau, hein, les adolescents adultes. Et effectivement, ces adolescents refusent les responsabilités. On le voit bien dans le film que vous venez de citer, The Darjeeling Limited, dans lequel trois frères vont partir en quête de leur identité au cœur de l'Inde. Et les trois, à leur manière, fuient leurs responsabilités. Donc l'un fuit sa femme enceinte, l'autre fuit sa rupture amoureuse. Et donc ce refus de se confronter à la réalité adulte va mettre en marche le récit de Wes Anderson. Donc tous ces récits sont fondés sur ce refus de se confronter au monde des adultes.
Mathieu Orléans, la part d'enfant, c'est l'une des particularités de son cinéma, et c'est ce qui frappe dans votre expo. Dans cette expo, toutes les formes d'expression artistique irriguent son œuvre, hein, qu'il s'agisse de la peinture, de la photo, de la BD, de la littérature, de la musique, et même des estampes japonaises. Et c'est souvent en lien avec son enfance et son adolescence.
Effectivement, une des particularités de son cinéma, c'est de faire jouer des enfants. Il n'a pas peur d'avoir dans son casting des novices qui sont là pour la première fois. On pense même à Jason Schwartzman, qui, pour le coup, est devenu un acteur très connu après, mais qui, dans Rushmore, à peine 20 ans, c'est son premier rôle. Et il a quelque chose comme ça de fragilité enfantine, ce geek avant l'heure. Je ne sais pas si on utilisait le terme à l'époque. En tout cas, c'est quelque chose qui le caractérise. Et on va retrouver ces enfants de film en film jusqu'à Asteroid City, où, pour le coup, Jason Schwartzman a vieilli et c'est lui-même aujourd'hui, veuf qui s'occupe de ses enfants, et les enfants sont très très importants dans le film. Et c'est vrai que ce sont des films qui, du coup, à mon avis, parce qu'on l'a un peu interviewé, il est très secret, Wes Anderson, mais on a essayé de comprendre un peu comment ça fonctionnait. Dans sa méthode d'écriture de scénario, c'est volontairement se plonger dans son enfance, dans des souvenirs, et c'est quelque chose qui revient dans les films, effectivement, dans Darjeeling Limited, Les Trois Frères, il y a quelque chose de sa propre fratrie qui est venu s'immiscer dans le film, et aussi dans Moonrise Kingdom, qui est peut-être le plus grand film enfantin, vu du point de vue des enfants, adolescents, on va dire. Ça se passe dans les années 60, ça se passe donc à une époque qui est plus ou moins cohérente avec sa propre enfance, un petit peu avant, mais presque. Et c'est vraiment les enfants qui sont au cœur du film. Et pour rejoindre le rapport à l'art, dans le film, ces enfants sont déjà des artistes en herbe. Elle écrit, elle lit, lui, il peint. Et d'ailleurs, dans le film, on montre les aquarelles du film qui n'ont pas été faites par l'acteur enfant, mais par un autre enfant. Parce que Wes Anderson tenait absolument à ce que ce ne soit pas un directeur artistique très mature qui s'amuse à mimer ce que pourrait faire un enfant de 13 ans. Mais il a cherché à travers tous les États-Unis pendant un an quel serait l'enfant qui pourrait faire ces petites aquarelles avec cette fragilité, évidemment, qu'ont les enfants. Et donc, effectivement, art et enfance ne s'opposent pas, mais vont ensemble dans ces films. Et c'est quelque chose qui est particulier. Et effectivement, on retrouve tout ça dans l'expo.
Allez, dans votre sélection, justement, de films favoris de Wes Anderson, vous avez choisi Moonrise Kingdom.
Cher Suzy, je sais que tu te sens blessée par tes parents, mais ils t'aiment quand même. C'est ça qui est important. Et si...
Cher Sam, je crois vraiment que tu devrais penser à leur visage tous les jours, même si ça te rend triste. Quel dommage qu'ils ne t'aient pas laissé plus de photos d'eux. Tu pourrais...
Cher Suzy, voilà mon plan.
Cher Sam, ma réponse est oui.
Cher Suzy, quand ?
Cher Sam, où ?
Cher Suzy, marche sur 400 mètres, plein nord, depuis ta maison, jusqu'au chemin de terre qui n'a pas de nom indiqué. Tourne à droite et va jusqu'au bout. Je te retrouverai dans la prairie.
Moonrise Kingdom, un film sorti en 2011 avec Bruce Willis, Bill Murray, Frances McDormand et Cara Hayward notamment. Été 1965, Suzy Bishop s'ennuie chez elle entre une mère autoritaire, un père lunatique et des petits frères remuants. C'est l'un de vos films préférés, hein, Julia Souli.
Oui, j'aime beaucoup Moonrise Kingdom parce que c'est un film qui va aussi éveiller à la sensibilité artistique, c'est ce que vous disiez juste avant. Il y a vraiment un dialogue des arts dans ce film. Il est fondé sur la répétition d'une pièce d'un opéra pour enfants qui est l'histoire de Noé, hein, l'histoire de l'Arche de Noé, et qui va donc se dérouler tout au long du film. Donc tout au long du film, on voit ces répétitions avec des enfants déguisés en animaux qui répètent cette pièce sur l'Arche de Noé. Et en parallèle, un réel déluge se prépare sur l'île. Donc on a cette mise en abîme du déluge, cette mise en abîme de la pièce de théâtre qui est très intéressante dans le film, et la musique incroyable aussi d'Alexandre Desplat qui s'est inspiré de la musique originale de cet opéra pour enfants Noyes Flood de Benjamin Britten, et donc qui va faire des variations sur la musique tout au long du film. Donc, et c'est vraiment la musique qui nous tient en haleine, et la reproduction, l'élaboration de cette pièce de théâtre en parallèle avec tous ces enfants déguisé. C'est un très beau film qui est une ode à l'intermédialité, en fait, au dialogue des arts dans les films de Wes Anderson.
Mathieu Orléans.
Ça me fait penser aussi à la famille peut-être Tenenbaum, pour changer un peu de territoire, qu'un film qu'il a fait avant Moonrise Kingdom, et qui est un film aussi beaucoup sur l'enfant, cette famille très, on pourrait dire aujourd'hui, dysfonctionnelle. Ça se passe à New York sans que ça soit vraiment cité, et c'est l'histoire d'une famille qui est totalement décomposée, qui a de lourds secrets. Il y a cette dimension, comme je l'ai dit au début, à la fois parfois un peu drôlatique et en même temps très émotionnelle, jouée par des acteurs immenses pour les parents et pour les enfants. Je pense en particulier à Angelica Houston pour la mère et Gene Hackman pour le père. Ça, c'est quelque chose d'important aussi, Wes Anderson, il est, comme on l'a dit, très cinéphile, et il cherche souvent à avoir ces figures un peu tutélaires d'acteurs, d'actrices, qui ont été importants pour lui quand il était jeune spectateur, et qui jouent des rôles, et ça c'est aussi très émouvant de voir la part des autres films qu'ils ont tournés avant, qui tout d'un coup vient s'immiscer, vient s'imprégner. Il y met aussi des choses de sa propre enfance, comme j'ai dit, et dans la famille Tenenbaum, on y retrouve beaucoup de lui, jeune, qui voulait mettre en scène, ça c'est un des personnages d'enfant, mais aussi on le retrouve dans le personnage de la mère, Angelica Huston, qui, par bien des côtés, ressemble vraiment à la mère de Wes Anderson, archéologue de profession, et on a su qu'il avait même demandé à l'actrice de porter les lunettes de sa mère pour créer un effet de ressemblance. Donc, tous ces petits secrets de fabrication, le travail aussi avec son propre frère, Eric Anderson, qui est illustrateur et qui a fait beaucoup d'illustrations pour les films et autour des films, tout ça, on le retrouve à la Cinémathèque. Wes Anderson a bien voulu les prêter pour la première fois.
Alors, The Grand Budapest Hotel, sorti en 2014, c'est avec Ralph Innes, Jude Law, Adrien Brody, Tilda Swinton, Owen Wilson, Mathieu Amalric. C'est l'un de vos films préférés, Christophe Narbonne. Ça commence à la fin des années 60 au sein d'une station thermale d'Europe centrale. Et un écrivain rencontre le propriétaire d'un grand hôtel, déserté, Zero Mustapha, un ancien groom qui lui raconte son histoire. Christophe Narbonne.
Oui, tout à fait. Je voulais rebondir juste par rapport à ce qui a été dit avant sur Moonrise et qui rejoint d'ailleurs The Grand Budapest Hotel, c'est que à partir de Fantastic Mr. Fox, son goût pour notamment l'animation, mais et plus avant la bande dessinée, devient de plus en plus prégnante dans son cinéma. Et Moonrise Kingdom l'illustre. Je pense à ses plans, la cabane tout en haut d'un arbre, le chien transpercé par des flèches, la scène finale avec le déluge, avec Edward Norton bondissant. À partir de là, je trouve que son cinéma est de plus en plus imprégné par la bande dessinée, notamment par la ligne claire. Hergé, Blake et Mortimer, Jacobs, etc. Et je trouve qu'il y a un gap. C'est pour ça que Moonrise Kingdom est effectivement un film important. Et dans le film suivant, donc The Grand Budapest Hotel, cet élément-là en particulier devient de plus en plus, à mon sens, hein, de plus en plus important. Je pense à la fameuse scène de poursuite à ski, qui est un mélange de prises de vue réelles, de miniatures, de stop motion, il y a même des pelures, des plans aériens qui ont été pris par ailleurs. C'est un cinéma qui, à partir de... Oui, j'allais dire de Moonrise, je parle des films en prise de vue réelle, deviennent de plus en plus influencés par la BD et on en trouve trace vraiment partout. Il y a même un extrait de dessin animé dans un segment de The French Dispatch. Donc il y a quelque chose là-dedans qui est de plus en plus assumé. Et je trouve que et ça colle parfaitement à son univers, cette façon qu'il a de caractériser assez simplement et assez efficacement les personnages, ça tient de la BD beaucoup. Donc voilà, il y a pour moi quelque chose de très important dans Moonrise et qui se développe dans The Grand Budapest. The Grand Budapest, qui, je le rappelle, est de très 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 loin le film qui a le plus attiré de spectateurs en salle. 180 millions de dollars de recettes, c'est plus de deux fois plus que ce qu'a fait le second. C'est un film qui est important, évidemment, qui est très achevé d'un point de vue plastique. On a l'impression que tout se met en place formidablement bien dans ce film-là. Il y a quelque chose par rapport à ce que ça raconte sur effectivement la montée du fascisme, l'autoritarisme, qui résonnait en particulier à ce moment-là dans le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, le film d'ailleurs conserve son acuité. Donc c'est un film effectivement très important et qui a eu l'heure de
Mathieu tout le
grand nombre. Oui, je voulais juste dire que ce qui est intéressant, c'est que aussi bande dessinée un peu irréelle soient les films, ils sont quand même tournés dans des lieux qui existent et pas dans des studios. Et on pourrait croire que Wes Anderson tourne en studio, dans des univers fermés, parce que c'est plus simple et parce que finalement on peut recréer exactement ce qu'on veut à l'image de ce qu'on a dans sa tête. Mais non, il est très fidèle à l'esprit des lieux et il préfère détourner une vraie maison à New York dans Tenenbaum pour la transformer en une maison fantasmatique. Pour le Grand Budapest, pour y revenir, il a trouvé un ancien centre commercial désaffecté en ex-RDA à Görlitz, à la frontière polonaise. Il a transformé ce centre commercial en gardant les volumes, en gardant la lumière, en un palace version années 30, version années 60. Et ça, c'est quelque chose de très typique, c'est de détourner des lieux pour en faire quelque chose de nouveau, mais pas s'abstraire totalement dans un studio, qui est parfois un contresens qu'on peut faire. Il aime prendre le risque du réel et tourner dans une île à Rhode Island pour Moonrise Kingdom, tourner en Inde, tourner dans le désert espagnol pour Asteroid City. Et ça, c'est quelque chose, à mon avis, dont il faut absolument tenir compte, aussi irréel les films soient-ils.
Allez, il est 11h moins le quart, l'heure de retrouver la chronique philo de Thibaut de Saint-Maurice.
France Inter, grand bien vous fasse.
C'est pas un truc d'intello la philosophie, c'est pas de la masturbation intellectuelle. Personne n'a à vous dire ce que vous devez penser, hein. Personne, jamais.
Habemus papam, eminentissimum, ac reverendissimum dominum, dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, cardinalem prevost, qui sibi nomen imposuit, leonem decimum quartum.
Alors Thibaut de Saint-Maurice, vous revenez ce matin sur l'élection du pape Léon XIV, hier au Vatican, et vous pensez que cela peut intéresser tout le monde?
Oui, Ali, tout le monde, quand je dis tout le monde, c'est-à-dire les croyants et aussi les non-croyants. Alors les catholiques, bien sûr, sont intéressés parce que c'est la nomination de leur nouveau big boss, hein. Mais les croyants d'autres religions ensuite peuvent l'être parce que c'est l'élection d'un nouveau chef religieux et que cela les concerne donc aussi d'un peu plus loin. Mais je pense que ça peut aussi intéresser tous les non-croyants. Tous les athées, tous les agnostiques, et même, je suis joueur, hein, tous les anticléricaux les plus militants. Alors pourquoi ? Parce que l'élection du pape, et singulièrement celle de ce pape-là, est un événement essentiellement politique. Et très paradoxalement, c'est un événement profondément politique parce que c'est justement une élection apolitique. Alors vous allez me dire, je coupe le peu de cheveux qui me reste en quatre, mais je m'explique. L'élection du pape est un événement politique parce qu'une communauté humaine vient de se doter d'un chef. Mais en même temps, c'est un événement apolitique parce que cette élection a désigné un chef qui n'a pas, ou très peu, de pouvoir politique, si du moins on le compare à un véritable chef d'État élu par un peuple de citoyens.
Et en quoi, Thibault, cela peut-il intéresser les non-croyants ?
Eh bien parce que l'élection du pape est une excellente occasion de repenser ce que nous appelons la politique ou le problème politique. Et étant donné la crise que subit la démocratie aujourd'hui, en France, en Europe, aux États-Unis et partout dans le monde, on ne peut pas, je crois, se priver de repenser le lien politique et la délégation du pouvoir. C'est pour ça que je pense que ça peut intéresser les non-croyants et particulièrement ceux donc qui sont attachés à la vitalité des valeurs démocratiques et républicaines. La philosophe Hannah Arendt rappelle que ce qui bloque notre pensée de la politique, c'est que nous avons tendance à ne considérer le pouvoir que comme un rapport de domination. Un pouvoir de dominant sur des dominés. Parce que cela nous conduit donc à confondre le pouvoir, la puissance, la force, la violence et l'autorité. Mais si nous changeons notre pensée du pouvoir, si nous l'envisageons autrement, non pas comme une domination, mais comme une action collective et concertée, alors ça change tout. Le pouvoir n'est plus la capacité d'agir sur, mais d'agir avec et d'agir ensemble et enfin d'agir pour. Le pouvoir que le nouveau pape vient de se voir confier est un pouvoir d'agir avec et d'agir pour et non pas un pouvoir sur. Alors pourquoi ? Eh bien le point de basculement, c'est ce que Arendt appelle l'autorité. Le pouvoir d'agir sur, le pouvoir de dominer, a besoin du masque, je dis bien du masque de l'autorité, et risque donc de devenir autoritaire. Mais le pouvoir d'agir avec et ensemble, celui que le pape vient de se voir confier, a besoin d'une reconnaissance immédiate de sa légitimité. Il a besoin de faire autorité auprès de ceux qu'il concerne. L'autorité, en effet, ne s'impose pas, elle ne se décrète pas, elle ne s'hérite pas. Elle a besoin donc d'être reconnue et donc toujours consentie. Le pape Léon XIV, élu hier, en est le parfait exemple. C'est un chef, mais dont le pouvoir ne dépend que de l'autorité que lui reconnaissent ceux qui le veulent bien. Le pape n'a aucun pouvoir sur les non-croyants et il n'a de pouvoir pour les catholiques que pour autant qu'ils le veulent bien. Son pouvoir n'est légitime et donc réel qu'à la condition de la liberté de ceux qui le reconnaissent. N'est-ce pas de ce type d'autorité dont toute démocratie peut rêver ? N'est-ce pas ce manque d'autorité dont souffrent aujourd'hui nos gouvernants ? N'est-ce donc pas parce que le pape est une figure d'autorité authentique qu'il peut intéresser tous ceux qui s'intéressent à la politique ?
Et en écho à votre chronique, je renvoie à la très bonne chronique politique ce matin de Patrick Cohen sur l'élection du pape. Vos premières impressions sur le pape Léon XIV, Thibaut de Saint-Maurice ?
Ça a l'air d'être un homme, en tout cas, tout à fait respectable. Ce qui est intéressant, moi, ce qui me frappe, j'ai pas tout encore bien compris, mais c'est qu'on dit qu'il est né aux États-Unis, qu'il a travaillé donc au Pérou, mais qu'il a aussi des origines familiales françaises, italiennes, etc. Et ça, c'est une dimension transnationale, universelle, qui est assez étonnante pour un chef de cette envergure.
Tous les épisodes de la chronique philo de Thibaut de Saint-Maurice sont à podcaster sur l'appli Radio France. Après les nourritures intellectuelles, les nourritures bien terrestres d'Héloïse Brion, alias Miss Maggie's Kitchen. Alors, Héloïse, vous nous proposez ce matin une tarte aux oignons accompagnée d'une salade verte et vinaigrette moutardée que l'on peut déguster en regardant un film de Wes Anderson.
Exactement. Aujourd'hui, Ali, je vous emmène dans un bistrot imaginaire. Celui que Wes Anderson aurait pu inventer pour un plan séquence à mi-chemin entre Ennui sur Blasé et un vrai petit village français. Le plat du jour s'affiche à la craie sur la Doise. Tarte aux oignons, salade verte, vinaigrette, moutarde. Mais attention, pas une tarte fine sophistiquée, non. Une vraie tarte généreuse, rustique, un peu épaisse, faite avec amour, exactement, avec des oignons doucement caramélisés avec du beurre, presque confit, posée sur une pâte maison dorée. Le genre de tarte que préparait ma mère le dimanche, quand il restait quelques œufs, un fond de crème et beaucoup d'envie de faire plaisir. Servie tiède avec une salade toute simple, juste relevée de moutarde, comme une ponctuation nette après une bouchée douce.
Et Guillemette a déjà quasiment terminé,
j'ai
ça
vu,
part.
J'ai vu. C'est un plat modeste, sans prétention mais qui dit tout. L'enfance, la cuisine des jours ordinaires, le confort d'une table en bois et d'un verre posé à côté. On l'imagine très bien dans l'univers de The French Dispatch, dans l'arrière-salle d'un bistrot à l'éclairage jaune, entre deux pages du journal ou après une conversation absurde entre un critique gastronomique et un commissaire de police. Un plat comme un souvenir, généreux, simple et profondément français.
Et la recette alors ?
La recette, beaucoup d'amour, des oignons, on pleure un petit peu, un petit peu de cumin.
C'est quoi votre appareil alors ? Racontez-nous un petit peu l'appareil que vous avez utilisé pour faire votre tarte maison.
Alors c'est tout simple, parce qu'en fait il faut vraiment prendre le temps de bien laisser mijoter. Alors la pâte, il faut la faire maison à la main. Et donc du coup dedans j'ai mélangé juste de la farine, du beurre, un petit peu de sel, du thym et du romarin du jardin.
Vous mettez un peu des œufs dans la pâte ou pas ?
Je mets des œufs et de la crème surtout aussi un petit peu.
Et alors votre appareil alors comment vous le ?
Alors en fait on prépare les oignons d'un côté, de l'autre on va mettre deux œufs avec un petit peu de crème fraîche, du cumin, du poivre. Et puis on met tout ça sur la pâte à tarte au four pendant 35 minutes et ça sent bon. Vous pouvez le préparer à la veille d'ailleurs, c'est aussi très très bon le lendemain.
Et avec une salade verte et moutarde vinaigrée avec de la moutarde.
La moutarde, oui, moutarde, un petit peu de citron dedans et tout ça, ça amène un petit peu de peps et du coup avec la douceur et les oignons caramélisés,
Et on pourra retrouver la recette sur l'appli Radio France. Vous allez nous envoyer la recette. Héloïse Brion, on peut lire avec profit votre livre « Mon art de recevoir » publié chez Flammarion. Allez, dans un instant, on va retrouver la chronique « Mauvaise langue » de Sandra Colombo, qui n'aime pas beaucoup Wes Anderson. En attendant, on écoute Catherine « Dormir en cuillère ».
Dormir en cuillère avec toi, me réveiller, j'ai un peu froid. Je te fais un café long, la radio, les chansons. Tiens, le PSG gagne au Barça, le climat c'est n'importe quoi. Dire que je suis comme tous ces cons qui peuvent pas changer de direction. Enfant arrive en criant, mais il crie en se marrant. Non, je suis pas sûr qu'il soit plus adapté. Moi je ne l'ai jamais été. Je suis habillé pour l'hiver. Prendre l'air, je te crie, j'y vais chérie. Tu dis oui en montrant ton derrière. Téléphoner à Eddy, Zouzou court après la perdrix. Les nuages se dégagent, laisse le soleil sur le bocage.
Dormir en Catherine cuillère. Interprétait Dormir en cuillère.
Bon bah, elle est gentille si on veut, mais
France Inter.
Malgré tout, elle manque un petit peu de fantaisie. Hein.
C'est cela, oui.
Grand bien vous fasse.
Écoutez Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens,
Mais effectivement, elle est gentille.
Mauvaise langue avec Sandra Colombo.
Oui, alors moi, je ne veux pas être mauvaise langue, Ali, mais je pense que vous n'avez pas idée d'à quel point je suis complexe. Si j'en réfère à ce qui m'est arrivé ces derniers jours, je suis même dotée d'un physique conceptuel à nul autre pareil. Et je m'en suis rendu compte grâce à ce qui va m'arriver le 15 mai. À 18h30. Ah, oh, mais Sandra, que va-t-il donc se passer le 15 mai à 18h30 crie la foule en délire. Oh, vous savez, un petit truc pas du tout normal. Un truc extraordinaire, puisque je vais gravir l'Everest des comédiens. Je vais déambuler sur le tapis rouge du Festival de Cannes et monter les marches du palais. Parce que, comme vous l'avez dit, Ali, Dossier 137, le film de Dominique Moll dans lequel je joue, est en sélection officielle à Cannes. Et donc, le 15 mai, pim pam poum, je vais avoir 24 occasions de me casser la binette en escalade dans ces marches mythiques. Mais après la joie immense de cette nouvelle géniale, est très vite arrivée dans mon cerveau l'angoisse du « Mais j'ai rien à me mettre !» Et vu qu'aucune marque connue, ou même inconnue, ne s'est précipitée pour m'habiller, eh bien je me suis moi-même mise en quête d'une tenue tapis rouge compatible. Et alors je me doutais que ça allait être pas facile, mais là on est carrément parti sur une quête initiatique. Voilà, j'ai découvert que j'ai un problème de taille. Faire 1m50 et une taille 44, c'est visiblement un gros problème. Ajoutez à cela le fait d'être écolo et pas très riche, et vas-y, la complexité. Alors comment trouver une tenue qui marche mais qui ne soit pas fabriqué par un petit enfant ouïghour à l'autre bout de la planète, le tout sans vendre un rein. Comment ne pas faire un infarctus du cerveau en constatant que les robes dites « de soirée » me dépassent d'au moins 50 cm en hauteur alors qu'il en manque 50 cm en largeur. Comment ne pas avoir envie de péter les genoux des vendeuses insupportables qui toisent et disent avec dédain « Non, on ne fait pas les grandes tailles, on s'arrête aux 40 ». Sachez qu'il y a des robes qui pèsent plus lourd que les femmes qui s'affament pour pouvoir les porter. Alors, je sais bien que la mode est au Médoc qui fait fondre et que l'ultra-maigreur solitude revient au galop, mais on fait quoi quand on fait partie des 1 Français sur 2 qui est soit en surpoids, soit obèse? On renonce? Alors, là, je fais la maline, mais je peux vous dire que la palme d'or du seum, c'est moi qui l'ai. Oui, parce que ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé de me trouver moche dans tous les miroirs. C'est hyper dur. C'est hyper dur d'arpenter les magasins en vain. Hyper dur d'être rattrapé par des envies de se faire vomir pour maigrir. Alors non seulement ça m'a renvoyé dans un endroit sombre que je pensais avoir réglé grâce à des années de thérapie, tout cet argent foutu en l'air, mais ça m'a mise en colère. Pourquoi est-ce qu'on se sent fautive et nulle de ne pas rentrer dans un vêtement qui a été sciemment fabriqué en se basant sur des standards de taille irréalistes? 38% des vêtements dans les magasins sont en taille 36, alors que seulement 5% de la population fait cette taille. Il y a des rayons entiers de gaines amaigrissantes en taille XS. Mais bon sang, pourquoi s'infliger le port d'une gaine quand on fait un 34? La taille moyenne des Françaises est le 42. Et on a réussi à nous faire croire que faire un 44, c'est être obèse. Alors arrêtez de nous montrer des corps faméliques en nous disant que si on n'est pas comme ça, c'est qu'on est moche. Je ne crois pas que notre valeur et notre beauté dépendent de la taille de nos vêtements. Alors petit message personnel à l'industrie de la mode, qui se la raconte inclusive, mais nous oublie avec nos corps trop ou pas assez. Clairement, on ne sera jamais des standards, des gens bien comme il faut, mais on est là. Et je ne pense pas que je sois la seule à avoir envie de vous dire d'aller bien vous faire rôtir le popotin.
Guillemette Odissino.
Bon alors déjà oui, gros applaudissements. Et effectivement, devoir monter des marches qui sont normalement des marches de gloire en se sentant humilié, il y a un truc qui ne va pas du tout.
Ouais. Donc, et je ne vous parle même pas des chaussures.
Voilà. Bah, on fait appel à des grands couturiers.
Bah écoutez, il reste quelques jours.
Sortez de vos standards, soyez des gens bien comme il faut et habillez Sandra Colombo.
Tous les épisodes de la chronique Mauvaise langue de Sandra Colombo sont à retrouver sur l'appli Radio France. Et on vous retrouve en spectacle mardi à 21h au point virgule.
Au 21h15, allez.
21h15.
Et toujours ce petit quart d'heure.
Et c'est ainsi que s'achève Grand Bien vous fasse week-end. Merci aux amis du vendredi, Sandra, Guillemette, Thibaut, Héloïse et Christina. Merci beaucoup Christophe Narbonne. On peut lire avec profit Wes Anderson, La Totale, chez EPA. Julie Assouli, Wes Anderson, cinéaste transatlantique, c'est publié au CNRS Éditions. Mathieu Orléans, l'expo Wes Anderson à la Cinémathèque, c'est jusqu'au 27 juillet prochain, et c'est déjà plein. Tout au long de la semaine, l'émission a été préparée par Mathéo Scognamiglio, Cyrine Benyounès et Joseph Ascal, avec l'aide d'Antoine Poitras, à la réalisation Claire Destacan, à la programmation musicale Valentine Chedebois. Demain, je vous retrouve à 9h30 sur France 2 dans l'émission Bel et Bien avec Agathe Le Caron, et lundi avec le 1 Hebdo. On se demande si nous n'allons pas devenir tous allergiques demain.